Bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous sexo. Perte de confiance en vous, sexualité en berne, relation, pansement. Après une rupture amoureuse, chacun réagit différemment côté sexualité et la libido en prend généralement un grand coup. Nathalie Giraud-Desforges, sexothérapeute et créatrice de la boutique de sextoy et conseils sexo, Piment Rose, est avec nous aujourd'hui pour nous parler de la libido après une rupture amoureuse. Bonjour Nathalie.
Bonjour Émilie.
Entamons tout de suite ce sujet. En tant que spécialiste, peux-tu nous dire quels sont les facteurs psychologiques et émotionnels qui peuvent contribuer au manque de libido après une rupture?
Alors, tu vois, j'ai une petite liste devant moi pour être sûre que je vais rien oublier. Mais nous ne sommes pas tous et toutes égaux ou égales face à une rupture amoureuse. Et puis, ça dépend de l'intensité de la rupture amoureuse. Si elle est vraiment très brutale, dans ce cas-là, c'est comme avoir un choc émotionnel hyper violent. Et on va passer, et la personne va passer par toutes les étapes du deuil de la relation idéalisée, du choc, donc de l'impact sur justement la libido, qui est la perte de désir sexuel ou le manque d'intérêt pour toute activité sexuelle. Et tu vas passer, et en plus, c'est pas une maladie, tu vois, tu n'es pas malade, tu es choqué. Tu es atteinte ou atteint. Tu as une perte de confiance dans ta capacité à retenir l'attention de la personne. Surtout si ça n'a pas été voulu, s'il n'y a pas eu de consentement mutuel en quelque sorte, s'il n'y a pas eu une préparation au cours de laquelle le couple est la personne en particulier a pu fermer toutes les portes de la relation. De l'endroit où elle désirait rester avec cette personne. Donc, c'est l'impact peut-être de ce choc émotionnel parce que tu risques ou elle risque de revivre un trauma lié à la petite enfance, une blessure de rejet, d'abandon, et donc il y a une blessure qui se réouvre à nouveau. Tu as aussi ce qui est dévastateur, c'est que avec cette perte de confiance en toi, tu as aussi un niveau de stress qui peut augmenter, puisque tes hormones du bonheur, de dopamine, d'endorphine, de sérotonine, parce que tu es à côté de la personne, tu as le toucher, le contact, dans la mesure où la relation n'était pas explosive, ne te faisait pas de mal en quelque sorte, où tu avais ces moments où tu te couchais à côté de la personne et donc tu recevais un peu de chaleur, de bonheur, de tendresse, tout ça peut disparaître d'un coup. Et quand ça disparaît d'un coup, eh bien, ton corps est en manque. Il est en manque de ses hormones et ça c'est remplacé par des hormones de stress. Donc, ton niveau de cortisol associé au stress augmente et aussi le niveau d'adrénaline augmente aussi. Donc, tu as le cœur qui bat, du coup, ton estomac est complètement serré ou tu as des nœuds en permanence. Ça peut complètement te couper l'appétit. Tu peux avoir des états d'anxiété profonds, voire même faire des crises d'angoisse. Et ça sape la confiance que tu avais dans ta capacité à séduire et à rentrer en relation avec l'autre.
Okay, donc, du coup, il y a le mental, mais c'est aussi physiologique parce qu'il se passe des choses dans certains cas.
Oui.
Dans le corps.
Dans le corps, c'est aussi dans le corps. Tu peux avoir de l'irritabilité, de déprime, de la tristesse. Ça aussi, ça passe par les étapes du deuil en quelque sorte. Dans les étapes du deuil, tu peux avoir aussi cette phase de déni qui est « Oh, mais non, pas moi, pourquoi ça m'arrive ?» après tous les efforts que j'ai mis dans cette relation. Donc, tu vois, c'est vraiment du déni « Non, j'y crois pas. » Et quand tu fais ce « Non, j'y crois pas », tu exerces une énorme énergie à mettre dans ce « Non, j'y crois pas » et donc qui sape ton niveau de réactivité dans la vie de tous les jours, puisque c'est entièrement centré vers ce « non, j'y crois pas, pas à moi ». Donc ça, c'est la première étape. Et puis, la deuxième étape, c'est la colère. Et en fait, c'est la reconnaissance de tes émotions ou l'externalisation de tes émotions. Être en colère, ça peut être sain quand c'est une colère exprimée. C'est comme si tu as le déni, tu es en apnée, tu vois, le choc, la paralysie. tu ne peux plus respirer. Après, tu as des respirations très courtes. Tu reprends ta respiration, c'est avec la colère, c'est avec, eh bien, si je fais ça, marchandage, un peu de négo, si je fais ça, alors il ou elle va être jaloux, ou il verra bien, ou alors je vais passer de serviable à servile, tu vois, te faire un peu carpette, un peu paillasson, ce qui marche pas non plus. Et puis après, tu as une phase de somme, de déprime, de blues, plus ou moins longue, de tristesse, qui est aussi nécessaire et qui peut durer et perdurer et durer encore. Et là, qui amène la personne, ben, c'est nécessaire d'amener la personne chez un ou une thérapeute. Et puis enfin, la phase d'acceptation. Ok, tu te mets un peu en méta, tu respires. C'est comme si tu ramenais l'air en toi, dans tes poumons. Tu prends une grande bouffée d'oxygène et tu te décolles petit à petit de la souffrance. C'est ça la phase de respiration. Tu remets du soi, du toi, dans ce qui s'est passé. Et puis après, tu as la phase de reconstruction.
Un processus qu'il faut respecter, effectivement, et puis selon les cas, c'est plus ou moins, on va dire, violent, enfin plus ou moins profond en tous les cas. Quelles sont les réactions sexuelles qualifiées de normales après une rupture et quand devrions-nous nous inquiéter du manque de libido ?
Ah, le normal, la norme. Eh bien, j'avais commencé en disant nous sommes inégaux ou inégales face aux conséquences de la rupture amoureuse et aussi ce qui dépend de l'intensité et de si tu t'y attendais ou pas et de ce que ça vient réouvrir comme blessure.
Et ouais, il y a tout un passé aussi qui est,
Oui, qui est là et qui peut être quelque chose qui va se rejouer et qui va, tu vois, mettre encore plus de tristesse, encore plus de poids et encore plus de temps pour que tu puisses t'en sortir. Mais les réactions, je dirais, normales, entre guillemets, c'est généralement, il y a peu de personnes qui ont tout de suite envie d'avoir une activité sexuelle débridée face à ça, en termes de réponse. C'est plutôt une sorte de repli sur soi, manque d'intérêt. Souvent, tu manges plus, tu peux avoir une compensation avec, tu bois plus ou tu manges plus ou tu manges, tu as des crises presque de
grignotage.
Ouais, de grignotage où le chocolat devient ton meilleur allié parce que il y a aussi des hormones dans le chocolat qui compense un peu, donc tu te réfugies sur la tablette. Et puis tu peux avoir aussi des endroits où tu te mets en danger, c'est-à-dire si tu te replies trop sur toi ou si tu as ces phénomènes de compensation qui sont en tu t'abîmes devant les séries télé, devant les vidéos, devant les jeux vidéo, devant du coup tu dépenses, tu peux avoir l'alcool, la drogue, enfin plein de choses.
Donc à partir du moment où on n'est plus libre parce qu'on subit tout ça, c'est ça, c'est là où ça devient inquiétant. Il faut penser à consulter.
Complètement. Ouais. Donc si tu te coupes du lien social, si tu te mets en danger financièrement et aussi par ta santé. Là, bah, évidemment, vas-y, consulte, ne te laisse pas tout seul ou toute seule gérer une situation que ton système, organiquement, ne peut pas gérer. Et là, tu as vraiment besoin d'aide parce que c'est utile d'avoir le soutien de tes amis, mais si tu te coupes du soutien de tes amis, de ta famille, de tes proches, à ce moment-là, la solitude va augmenter ton niveau de stress, augmenter ton niveau d'anxiété, donc ton irritabilité, donc généralement ton sommeil est impacté. Enfin, il y a des tas de choses qui vont s'enclencher d'un point de vue physiologique et non plus psychologique.
En tous les cas, donc ne pas rester seul. Alors, peux-tu donner des conseils pour reconstruire la confiance en soi sur le plan sexuel après une rupture ?
Accepter. Accepter, ça fait partie de la phase d'acceptation. Accepter la situation. C'est comme ça, ça s'est passé. Qu'est-ce que j'en retire ? Quelles sont l'expérience plutôt que l'échec ? Donc, passer d'un mode d'échec à un mode d'expérience. Donc, passer du négatif à un positif. reprendre du temps pour toi. Qu'est-ce que tu avais laissé de côté quand tu étais en binôme, en couple, dans une relation? Est-ce que tu t'étais oublié? Qu'est-ce que tu avais oublié de toi? Donc, ressortir l'ancien ou l'ancienne toi, ce que tu aimais.
À dépoussiérer un petit peu.
Voilà, tu veux dépoussiérer et surtout tu reviens dans ce que tu as oublié, ce que tu as mis de côté pour ne pas perdre l'autre, pour que l'autre t'aime, pour ne pas être rejeté, ne pas être abandonné. Et c'est reprendre ce temps-là et faire peut-être ce que tu voulais faire, mais que tu n'as pas fait pour garder l'autre, par exemple. Je sais pas, te lancer dans une activité, un challenge, rejoindre une assoce, tu dansais, danse encore, tu chantais, chante, refais des trucs que tu kiffes, quoi. Donc, reprends ta liste de ce qui te fait plaisir. Tout petit peu plaisir, parce que quand on est face à une brutalité d'une rupture, avant de retrouver le plaisir, ça peut être long et c'est complètement normal. Ouais. Donc, faire la liste de tes envies, comme le titre d'un bouquin ou d'un film, c'est vraiment important et c'est ce que je fais aussi avec mes patients ou mes patientes. C'est quoi tes envies, vos envies? Qu'est-ce qui amène justement cette respiration, ce sourire en vous? C'est aussi le temps pour le corps. Pour ton corps, réexplorer ton corps, réexplorer ta sexualité, réexplorer tes envies. Comment est-ce que ton corps peut vibrer? Peut-être utiliser un sextoy que tu n'osais pas utiliser. Peut-être recommencer à te masturber, peut-être différemment. Tu prends le temps de rentrer dans une thérapie s'il y a besoin. Et puis, oui, très important la thérapie parce que ça te permet de remettre du choix là où il y a eu une blessure qui a pu se réouvrir. Donc, tu vas remettre de la liberté, du choix dans la possibilité de réagir différemment et de voir où peut-être il n'y a pas eu de limites qui ont été posées et où ton périmètre qui pour assurer ta propre sécurité, eh bien, il a été fait en fonction de l'autre. Ça permet ça aussi d'engager un processus thérapeutique qui n'a pas besoin de prendre une plombe, quoi. Ça peut être quelques séances pour te remettre dans une phase d'écoute et peut-être apaiser ta vigilance intérieure qui se remet en sécurité, en disant « plus jamais je vais faire confiance, je vais le faire payer aux autres, puisque c'est comme ça. » Ouais, souvent, c'est ce qui se passe, et je vais le faire payer. Et donc,
les autres ne sont pour rien.
Voilà, mais ça fait du bien pendant que l'avion passe au-dessus.
Ok, donc on a vu comment reconstruire un petit peu sa confiance en soi. On a parlé, tu as évoqué justement les sextoys pour apprendre peut-être à se redécouvrir, à savoir peut-être comment vibrer différemment. Existe-t-il des exercices ou des techniques qui peuvent aider à réveiller la libido post-rupture?
Écoute, le premier exercice, j'ai parlé un peu de respiration où tu étais en apnée, c'est de réapprendre peut-être ou d'apprendre tout simplement à respirer et à parce que respirer te permet d'être beaucoup plus en relation avec toi-même et avec ton corps. Donc, de recentrer ton ressenti, tes sensations vers toi-même. Donc, tous les exercices de respiration, de cohérence cardiaque, avec la sophro aussi, les exercices autour du yoga pour réguler ton système, sont une excellente porte d'entrée dans une sorte de réconciliation avec ton système intérieur. Les sextoys, parce que du coup, tu peux être à nouveau, et je dis ça, les sextoys, ça peut être les sextoys de masturbation pour les hommes comme pour les femmes aussi, où tu réapprends à être autonome dans ton plaisir. C'est-à-dire, tu ne le confies pas à l'autre, du coup, l'autre n'est plus là, tu es un peu désemparé, mais tu apprends à te réapproprier tes sensations pour toi. Je pense surtout aux femmes qui parfois ne connaissent pas bien leur corps. Et donc, c'est l'occasion de découvrir comment ton corps peut réagir, de t'informer. Tu vois, il y a des programmes sexo, des programmes de formation sur Piment Rose, qui sont justement dédiés pour tourner cette attention vers toi, ton plaisir personnel, pour aller après, peut-être pas maintenant, parce qu'il y a toujours cette structure, vers un plaisir mutuel. Donc, tu t'informer là où peut-être il y a eu un manque d'information. Et puis, te faire plaisir en sortant à nouveau, en prenant une activité que dont on parlait tout à l'heure, que tu ne prenais pas, ou que tu apprends quelque chose de nouveau, ou tu réapprends quelque chose que tu avais laissé de côté. Donc voilà, respiration, c'est super important. Sex toys peut relancer la libido, tout à fait. Même le pommeau de ta douche, quoi, pour explorer les jets d'eau. Mm-hmm. Faire plaisir, revoir tes amis, parce que tes amis, c'est aussi ton soutien. Ça peut être une colonne vertébrale. Et puis lever le nez vers ce qui t'entoure.
Et bien, un joli futur, et puis voilà, avec en ayant pris soin de bien de mieux se connaître, du coup, bah, d'optimiser ses relations futures, hein, sexuellement.
Oui. C'est pour ça que avec un ou une sexologue ou sexothérapeute, il y a la possibilité d'explorer le domaine de la sexualité que peut-être la personne n'a pas osé explorer ou ne va pas oser demander avec un autre thérapeute, tu vois.
Okay. Voilà, là, c'est l'occasion parfaite. Et alors Nathalie, tu rencontres bon nombre de personnes qui viennent te consulter. Est-ce que tu as une histoire de réussite rencontrée dans ta pratique professionnelle à nous partager? Quelqu'un qui est, alors sans le nommer hein, bien sûr, mais qui est passé par là, par une rupture, oui. qui avait sa libido un petit peu touchée et tu as réussi un petit peu à remettre sur le droit chemin.
Droit chemin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un chemin qui était plutôt en phase. Alors, c'est une jeune femme, je pense à elle parce que c'était très récent, et que lorsque on est jeune, tu vois, moins de 30 ans, elle a 27 ans, donc sa rupture, elle avait 20 ans. Et il y a comme une attente que les hormones t'inondent et tu n'y penses pas et tu t'engages dans une relation sans y penser, sans conscience. Et donc, ça peut frapper un peu plus lorsqu'il y a une sorte d'abstinence, un retrait de la relation sexuelle, mais en fait de la relation tout court. Et donc, au bout de 2 ans après une rupture assez brutale, parce que en restant avec son amoureux qui était avec elle pendant 2 ans, et il l'avait ghosté, ce qui est assez très violent, donc maintenant, en coupant tout contact avec elle. Il était parti en voyage, il n'était pas revenu. Elle savait qu'il était vivant parce qu'elle le voyait sur les réseaux sociaux, mais il l'avait complètement shunté de sa vie, quoi. Donc, très violent. Et 2 ans, ça lui a pris 2 ans de repli où la relation, même la relation d'elle-même à elle-même, c'était coupé de toute envie. Alors, elle n'était pas du tout en dépression parce qu'elle sortait avec ses amis, eux. Et puis là, elle avait rencontré quelqu'un et elle s'apercevait qu'elle avait plein de défenses. Pourtant, il y avait une partie d'elle qui était attirée. Elle le trouvait sympa, pas comme les autres. Une envie, elle retrouvait un peu des petits papillons dans le ventre, mais un autre endroit d'elle qui coupait toute relation avec cet homme-là. Donc, les opportunités, c'était un élan, une coupure. Un élan, une coupure. Et donc, elle est venue pour aller voir comment, quoi faire, parce qu'il y avait une petite envie, quand même, de relationner. Et cette énorme peur. Et donc, on a travaillé avec la partie d'elle qui coupait, avec ses craintes, cette partie-là, son histoire, l'histoire du rejet parce que c'est vraiment un rejet et un abandon quand ses parents avaient divorcé quand elle avait 5 ans, qu'elle a revécu, qui s'est réouvert. Donc, l'hypervigilance qu'elle mettait dans la relation avant même la relation sexuelle. Et donc, elle a sympathisé, on va dire, appris à connaître cette sorte de garde du corps qui était entre elle et les hommes, hein, puisqu'elle était plutôt hétéro, ou entre elle et ce jeune homme. Et ça n'a pas pris longtemps, je crois, à peu près au bout de 6 mois. Ils sont sortis ensemble. Je crois qu'elle m'envoie des petites notes en disant…
Il y aura un faire-part.
Peut-être qu'il y aura un faire-part. Moi, j'aime bien quand mes clients ou mes patientes m'envoient ou mes patients m'envoient…
C'est gratifiant, oui.
Super gratifiant. Donc voilà, pas rester seule, c'est super important. Et apprendre à connaître ces mécanismes, c'est une des clés pour aller de l'avant et ne pas refaire les mêmes, avoir plus de choix dans son niveau de réaction, je dirais, gagner en liberté et en autonomie.
Voilà, et pas hésiter à se faire accompagner justement pour non pas retourner sur le droit chemin, comme je le disais, mais retourner vers le chemin du plaisir et du désir.
Oui, en tous les cas, et chemin des envies, quoi, de l'envie, d'être en vie et du corps qui est vibrant et d'un accord pour entrer en relation, puisque là, il y a eu accord entre toutes les parties d'elle pour qu'elle aille vers cet homme-là et qu'elle commence à lui faire confiance, mais surtout à se faire confiance pour mettre des limites, voir jusqu'où elle pouvait aller, communiquer différemment aussi. Donc,
voilà. Merci Nathalie, merci pour tes précieux conseils. Et dans tous les cas, oui, ne surtout pas rester seule, des solutions existent pour renouer avec le désir, le plaisir. En attendant, si vous avez des questions liées à votre épanouissement sexuel, n'hésitez pas à contacter une sexologue. Nathalie, comment faire pour te contacter et aussi au passage, où retrouver ta sélection de sextoys?
Ah, alors, vous pouvez contacter, c'est mon site de thérapie, nathalie-giraud.fr. Et puis le site de sextoys, pimentrose.fr.
Très bien, merci beaucoup. Je remettrai toutes les informations, bien sûr, dans le descriptif de cette vidéo. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nathalie, un grand merci et j'espère te retrouver très vite pour un prochain sujet.
Merci, Émilie. Bye bye.
À très bientôt. Merci.
Ciao.